Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figure de l'Histoire.
Саймо, изплющтаного посреди голубого, старый господин не пронашао дете, мало церно дете, кое с голубойма
летело. Nous avons laissé l'empereur de Constantinople, Théodose, conseillé par son ministre principal, Chrysaphius, décidé de ne pas céder à Attila concernant les territoires au sud du Danube. Oui, celui-là, il voulait tous se les approprier. Et surtout, et ben finalement, l'idée d'assassiner le roi des Huns est dans tous les esprits. Donc l'ambassade des Huns qui était venue à Constantinople repart, flanquée de celle de Constantinople, pour donner la réponse, et ils se dirigent donc tous vers la résidence d'Attila. Maximinus, qui représente Théodose, tremble un peu parce qu'il connaît la colère d'Attila. Il dit « Bah mince, alors si on lui répond non, ça y est, ça va être la guerre. » Et ces colères d'Attila sont célèbres évidemment partout. Alors, ce Maximien, il est accompagné de Priscos, qui est plus soucieux de littérature que d'ambassade. C'est lui qui nous a laissé le récit de l'ambassade et de la suite. Et puis enfin, il y a Vigilius. C'est un Romain qui doit faire fonction d'interprète. Il fait partie du complot d'assassinat à lui. Alors que les deux autres, non, hein, ils ne savent rien. Alors on s'arrête à Sardique, l'actuelle Sofia, et puis on arrive, après avoir passé le Danube, dans une vallée couverte de tentes rondes et de chariots. Et dominant le tout, une belle tente aux dimensions imposantes, c'est évidemment la tente d'Attila. L'ambassade de Théodose donc dépose les bagages, et à peine l'ont-ils fait que surgit une troupe de guerriers huns, les obligeant à s'installer plus loin. Alors à leur allure menaçante, Maximinus répète qu'il ne répondra qu'au grand roi, que tel est l'usage diplomatique. Alors on les laisse au repos, et toujours pas de réponse à la demande d'audience. Elle commence à se faire des cheveux, hein. Maximinus s'interroge sur le point de savoir s'il convient, puisqu'on ne s'occupe pas d'eux, de rebrousser chemin. Et Priscos lui répond que tout ça, ça paraît bien incompréhensible, que c'est un petit peu inquiétant, mais enfin, c'est Attila qui a exigé cette ambassade. Alors après quelques jours d'attente, on leur annonce que le grand roi leur accorde cette fameuse audience. Ils sont conduits à la grande tente royale. Attila est là, entouré de ses dignitaires et de soldats. Après les salutations, voilà qu'Attila aperçoit Vigilius, celui qui devait faire l'interprète. Et il explose. Comment ose-t-il se présenter devant lui? Ne sait-il pas qu'aucun Romain ne doit se présenter tant que Rome n'aura pas livré tous les Huns qui sont déserteurs? Alors, Vigilius est complètement éberlué parce qu'il répond qu'à sa connaissance, ben, ils ont tous été livrés. Et alors, Attila menace de le mettre en croix, il fait taire Maximinus qui voulait s'interposer, et il fait énumérer une longue liste des Huns, une liste qu'il a inventée bien sûr, hein, qui selon lui sont encore dans l'Empire romain. Et Attila ordonne à Vigilius de repartir à Byzance pour rappeler à l'empereur l'accord sur les transfuges. Eh ben, Vigilius, il ne se fait pas dire deux fois, il part. Donc l'ambassade qui est restée sur place offre ses présents, et puis Attila répond rien et il lève le camp pour sa capitale. Maximinus, il est invité quand même à suivre. Donc ce dernier, et puis Priscos, ils trouvent que ça prend une tournure bizarre. Il faut rappeler que Maximinus et Priscos ignorent complètement le complot pour assassiner Attila. Hein. Ce qu'ils ne savent pas non plus, c'est qu'Edécone. Qu'Edécone, c'est le bras droit d'Attila, il était venu à Constantinople. Hein. Qui a semblé accepter de trahir Attila quand il était à Constantinople. Finalement, il a averti ce dernier quand il est revenu de ce qui se trame et du rôle d'assassin que Chrysaphius lui a confié. Aïe, 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 aïe. Une semaine plus tard, arrive une autre ambassade, celle de Ravenne. Les deux ambassades réunies attendent le passage d'Attila. Toujours pas de réponse à la lettre de Théodose qui disait hein, qu'il ne voulait pas accepter que Attila prenne les territoires au sud du Danube. Alors les choses traînent et pendant ce temps, Attila a éclairci tout ce qu'il veut savoir. Oui, il a beaucoup d'espions, Attila. Hein. C'est-à-dire que il y a eu un complot ourdi par Chrysaphius contre sa vie et qu'on a proposé de l'argent à Edécone. Alors Vigilius revient et on permet aux ambassadeurs de repartir vers Constantinople. Le ministre Béric, chargé d'une lettre pour Théodose, va voyager avec eux. En passant la frontière, Maximinus et Priscos croisent Vigilius. Et Vigilius, il leur paraît tout guilleret, mais il ne sait pas ce qu'il attend, le pauvre. Il transporte tout l'or qu'il va donner à Edécone pour le prix de l'assassinat. Il se réjouit déjà de la gloire qui sera la sienne pour avoir contribué à débarrasser le monde latin d'Attila. Les Byzantins méprisent les Huns. Il n'imagine même pas qu'il puisse témoigner de ruse, de patience, ni même d'intelligence. L'idée même que leur complot puisse être découvert ne les a absolument pas effleurés. Et voilà notre Vigilius, inconscient, qui arrive à Etzelburg, c'est-à-dire le lieu où habite Attila. Il est tout surpris que dès sa descente de cheval, des gardes huns l'entourent, s'empare de lui, et il a eu le malheur d'amener son fils avec lui, de son fils, il les ligote et les jette dans un cachot. Le lendemain, on sort Vigilius, on le conduit au palais, devant Attila, Oreste, Ogenèse et Décone. Et par terre, éparpillés sur le sol, toutes les sacoches remplies d'or qui devaient servir à payer Décone. Alors Attila lui demande ce qu'il peut bien acheter avec tout cet or. Et l'autre lui répond « Des chevaux !» Alors Attila dit « Ah ben alors, ça doit être un véritable troupeau !»« Quel complice voulais-tu acheter et pour quel forfait ?» Ça, les choses se gâtent. Hein. Vigilius est alors convaincu que le complot est découvert. Il se tourne vers Edécone, il protège son innocence. Attila demande qu'on fasse venir le fils de Vigilius. Interrogé, ce dernier dit qu'il ne sait rien. « Eh bien, dit Attila, puisqu'il ne sait rien, tuez-le !» Alors évidemment, Vigilius, en entendant ça, il avoue tout. Attila le fait emprisonner, il remet le fils en liberté et le renvoie à Constantinople ainsi qu'une ambassade. Alors on imagine la tête à Constantinople, parce que tout le monde attend la nouvelle de la mort d'Attila. Seulement, arrivé à Constantinople, pas d'Edécone, pas de Vigilius non plus. En revanche, son fils est là, entouré d'un grand nombre de soldats huns. Oreste se dirige vers l'empereur et lui tend une lettre d'Attila. Et que dit la lettre ? Ton porte-épée est un assassin. Je veux que tu m'envoies sa tête sans délai. Sinon, je viendrai le pendre moi-même. En attendant, Attila estime venu le temps de la grande conquête. D'autant que les agents qu'il a placés lui disent que tous les peuples barbares asservis par l'Empire sont prêts à se soulever. Alors ce sont les Germains, les Francs, les Burgondes, et que tous ces gens-là, eh bien, ils rejoindraient son armée s'ils se lancent. Il hésite un peu. Est-ce qu'il va commencer par l'Empire d'Orient ou bien par l'Empire d'Occident? Nous allons faire une première pause musicale. Il se produit alors un événement, c'est que l'empereur d'Orient Théodose meurt d'une chute de cheval. L'entourage de Théodose n'est pas très apprécié, si bien que des troupes se produisent. Chrysaphius est lapidé, des ministres sont tués par le peuple. Et alors, on oublie de payer quoi donc ? Le tribut en or à Attila. La voilà l'occasion. Parce que Attila, il réclame ses sous. S'il n'a pas son or, c'est la guerre. Seulement le nouvel empereur, qui s'appelle Marcianus, c'est quelqu'un d'énergique, quelqu'un de résolu. Et il informe Attila qu'il considère qu'il n'a rien à lui payer et que désormais, il lui répondrait non pas avec de l'or, mais avec du fer, c'est-à-dire avec une armée. Alors Attila, il est complètement surpris, si bien que pour l'instant, il renonce à Constantinople et il se retourne vers quel autre empire ? L'empire d'Occident, c'est-à-dire Ravenne. Alors bien sûr, il lui faut un prétexte. Eh bien, il le trouve. Il choisit de répondre 15 ans après à l'offre de mariage que lui avait adressée Honoria, la fille de Placidie, la sœur de l'empereur. Alors, il avait quand même été surpris qu'elle s'offre elle-même, et puis un petit peu méfiant aussi. Alors, 15 ans après, il envoie sa réponse. Oui, 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 il veut bien l'épouser, à l'empereur Valentinien. Alors, c'est la stupeur à la cour de Ravenne. Comment ça? Livrer Honoria à ce barbare puant? Alors, quoi faire? Alors, vite, 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 on choisit de la marier à un vieux sénateur, pourvu qu'il s'engage à la surveiller très étroitement. Il a intérêt, parce que la dame, elle a le sang chaud et la cuisse légère. Et on envoie une jolie lettre à Attila, en lui disant que ça n'est pas possible, parce que la dame, maintenant, elle est mariée. Finalement, Attila ne se vexe pas. Il a décidé, entre-temps, de s'en prendre à la Gaule. Alors, il réunit une armée absolument énorme. Et comme il ne peut pas y avoir d'intendance, parce qu'ils sont vraiment trop nombreux, hein, Attila décide finalement qu'on se paiera, comme d'habitude, c'est-à-dire en pillant. Le 12 mars 451, 700 000 Huns traversent le Rhin et se dirigent vers Trèves. Trèves, c'est en Allemagne actuellement, hein. C'est l'affolement en Gaule. Les récits des pires atrocités se répandent. Vers qui se tourner? Si quelqu'un peut sauver l'Empire, c'est bien Aécius, ce général, un Germain depuis longtemps romanisé. Il est vaillant, il est loyal, et puis on rappelle toutes ses victoires contre les Vandales, les Burgondes, les Alamans. Donc, il faudrait qu'on lui confie des légions, et ça ne serait pas suffisant. Donc, il faudrait qu'il cherche des appuis, et en particulier, l'appui des Visigoths du royaume de Toulouse. À Lutèce, Paris. Seule une femme ose l'espérance contre l'arrivée des Huns, parce qu'on se dit, de Trèves, ça ne va pas être long, hein, ils vont passer le Rhin et se diriger vers Lutèce. Et elle dit, cette femme, « Ayez confiance, priez, et Dieu vous écoutera. » Qui est-ce? C'est Geneviève. On sait qu'elle est née en 422 ou 423. Elle est née à Nanterre, où ses parents fort riches avaient une immense, vraiment d'immenses propriétés. Elle est baptisée donc dans cette église de Nanterre et elle prend le voile en 438. Ses parents étaient un petit peu peinés de ça parce qu'elle était fille unique. Elle prend le voile toujours dans la petite église de Nanterre. Lorsque ses parents décèdent, elle hérite, comme fille unique, d'une fortune absolument considérable. Eh bien, elle ne s'en sert que pour ses œuvres de charité. Elle s'installe dans l'île de la Cité et elle rencontre Aécius, qui était venu là pour recevoir les chefs des tribus du Nord, de l'Est et de l'Armorique, pour essayer de les convaincre de lever une armée afin de l'aider à combattre contre Attila. Aécius, en 449, retourne à Ravenne en disant à Geneviève qu'il espère revenir bientôt. Au début de mars 451, l'armée des Huns s'est développée sur un front qui va du Jura au Pas-de-Calais, ça sent le Roussy, hein. En avril, Attila met le siège devant Metz. La ville tient le coup au début parce que dans toutes les villes de Gaule, c'est le temps de carême. Les évêques exhortent les populations à prier et le samedi veille de Pâques, la nouvelle incroyable se répand. Attila a levé le camp. Metz semble sauve. Ah oui, mais il s'est éloigné pas loin. Et voilà qu'une partie des remparts de la ville s'écroule toute seule. Sans laisser le temps aux habitants de combler la brèche, Attila fait demi-tour et les Huns reviennent s'engouffrer au galop dans la forteresse. Ils brûlent les maisons et les églises, égorgent tous les habitants. C'est là que les évêques ont eu raison de dire qu'Attila est le fléau de Dieu. Metz détruite, eh ben la route de Lutèce est libre. À moins d'un miracle, Lutèce est perdue. ses remparts sont trop faibles. Donc, les gens disent, il faut fuir, parce que déjà Reims, Saint-Quentin et Lens sont tombés. Elle, Geneviève, elle n'en démord pas. Elle dit que le jeûne et la prière vont sauver la ville. Les épouses des notables s'enferment avec elle, dans le baptistère Saint-Jean-le-Rond, c'est tout à fait à la pointe de l'île. Et tout ce monde-là prie et jeûne. La défense de la ville s'organise. Eh oui, mais les uns arrivent. Et ils entourent Lutèce. Et la troisième nuit, les uns partent sans avoir rien tenté. Alors on dit que c'est un miracle. Mais qu'a donc appris Attila qui l'a fait changer d'avis? Ben, il a appris que les Visigoths s'apprêtent à marcher avec les Romains d'Aesius, que les renforts pour Aesius ne cessent d'arriver. Donc Attila se dit, il faut se dépêcher d'aller au-devant des Visigoths de Toulouse pour leur couper la route afin qu'ils n'effectuent pas leur jonction avec Aesius. C'est ce qui explique qu'il ait laissé Paris, qu'il ait laissé Lutèce. Enfin, il est possible aussi que les prières soient intervenues. Alors, sur la route pour descendre à Toulouse, il y a Orléans. Orléans très bien défendu. Le 2 mai 451, les Huns mettent le siège devant la ville. L'évêque d'Orléans, à ce moment-là, c'est Aignan. Il adresse plusieurs messages à Aesius en lui disant de se dépêcher de venir pour secourir la ville. Et Aesius fait répondre qu'il ne pourra pas être là avant le 23 juin avec les légions, les Visigoths, donc de Toulouse, et puis aussi les Francs de Mérovée. Nous allons faire une deuxième pause musicale. Thank you. Le 22 juin, à Orléans, Aignan désespère de voir arriver Aësius. Orléans résiste depuis 7 semaines, mais la population est épuisée et les vivres manquent. Un envoyé de la ville demande à Attila quelles seraient les conditions d'une reddition. Et Attila répond « Les portes ouvertes !» Le 23 au matin, Aignan est toujours là-haut sur les remparts, il scrute l'horizon et rien, il ne voit rien. Alors, on ouvre les portes de la ville. Et évidemment, comme d'habitude, les uns se précipitent au pillage. En fin d'après-midi, Aignan, toujours là-haut sur ses remparts, voit au loin quoi donc ? Une épaisse poussière qui annonce l'approche d'une troupe considérable. C'est Aësius avec les Visigoths et les Francs. Orléans est en ruine, mais Attila est arrêté. Il rassemble ses hordes et fait mouvement vers le nord-est. Il sait qu'après quelques jours de repos, Aësius va se lancer à sa poursuite. Attila cherche alors un endroit qui lui soit favorable. Quand il revenait de Trèves, il a remarqué une grande plaine entre Troyes et Bar-sur-Aube, Reims à l'ouest et Mourmelon au nord. Alors il y installe son camp, près de Châlons, et il attend Aësius. Le temps passe, Aësius arrive. À l'époque, vous savez que les armées se mettaient face à face. Hein. Alors ils sont face à face, mais aucun des deux ne donne l'ordre d'attaquer. Aësius, lui, il attend que les uns attaquent, et Attila, il attend que le soleil tourne suffisamment, parce que sinon il les a dans les yeux. Alors, à 15 heures, le soleil est suffisamment tourné, et Attila donne l'ordre d'attaque. La bataille est absolument terrible, très complexe, furieuse. La nuit tombe. La mêlée est si confuse que plus personne ne distingue entre alliés et adversaires. Finalement, Attila donne l'ordre de la retraite et ses troupes vont se retrancher derrière leurs chariots à la grande surprise des Romains. Le lendemain, on peut compter à peu près 300 000 morts et blessés qui gisent dans la plaine. Chaque armée s'est retirée, persuadée que l'autre a perdu. Et on se regarde pendant 3 jours. Finalement, c'est Attila qui renonce à reprendre l'offensive. Il met en marche son armée vers le nord. Alors Aësius se retire dans Orléans. En fait, on peut dire qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu. C'est ce qu'on appelle la bataille des champs cataloniques. Mais l'invasion est arrêtée par une coalition finalement de barbares et de gallo-romains. Attila se retire au-delà du Rhin. Oui, mais pour reconstituer ses forces. Parce que, finalement, il se dit, puisque j'ai raté là, eh ben, je vais m'en aller en Italie. On va faire une dernière pause musicale. Thank you. Donc, il entreprend de former une armée nouvelle, mais cette fois-ci, il se dit « Je vais faire une armée copiée sur celle des Romains. » Et à ce moment-là, mon armée sera tout à fait invincible. À Ravenne, on ignore absolument les préparatifs d'Attila. Et à Constantinople, Marcianus poursuit la constitution d'une armée pour venir en aide évidemment éventuellement à Ravenne. Il fait alliance aussi avec d'autres, en particulier avec des Parthes et les Vandales. Et il espère que, avec l'armée d'Occident, ils sont suffisamment nombreux pour battre Attila. Attila, je vous l'ai dit déjà, hein, il a beaucoup d'espions. Et les espions le tiennent tout à fait au courant de ce qui se passe à Constantinople et à Ravenne. Alors, il décide de faire vite. Son plan, c'est de traverser l'Illyrie, la Vénétie, et de prendre d'abord Ravenne, puis de Ravenne d'aller prendre Rome, de faire demi-tour, de revenir vers Constantinople et de mettre fin ainsi à l'Empire d'Orient. Les deux en même temps, hein ? C'est ce qu'il entreprend. Il arrive devant une ville qui s'appelle Aquileia. Cette ville a de puissants remparts. Elle est bien approvisionnée. Elle est bien pourvue en armes. Donc, elle résiste. Mais à Ravenne, c'est la panique. Attila s'obstine. Et Aquileia finit par tomber. Alors, comme d'habitude, ce sont bien sûr massacres et pillages. À Ravenne et Constantinople, c'est l'affolement. Tout le monde fuit à Ravenne. Attila dévaste les cités de l'Italie du Nord. Valentinien, qui est l'empereur de Ravenne, hein, a confié à Aïssus la tâche. Oui, mais la tâche quoi ? Presque impossible, puisque il faut résister aux Huns sans moyens militaires. Les Visigoths et les Francs qui ont aidé Aïssus précédemment, ben là, ils sont pas chauds pour revenir. Avec les quelques légions qui lui restent, il a une idée faramineuse, Aïssus. Au lieu de faire une guerre d'affrontement, eh bien, il se livre à une guerre d'escarmouche, et ça épuise complètement les Huns. L'été 452, eh bien, c'est un été particulièrement accablant. Les Huns, qui eux sont habités plutôt au froid, hein, semblent incapables de supporter la chaleur lourde et humide. Et ils désertent, épuisés par la fatigue et la maladie. Sans prévenir Aïssus, l'empereur envoie alors une ambassade à Attila et il demande la délivrance de l'Italie. Et Attila dit oui. Bien sûr, mais contre une énorme rançon. En or, comme d'habitude. Et comme il a tous ses sous, eh bien, il remonte vers le nord. Il arrive à Etzelbourg, chez lui, en vainqueur, avec un butin énorme. Tous lui disaient d'en finir avec l'Empire d'Orient, surtout son fils, Hélac. Oui, Hélac, il se voit bien empereur à Constantinople. Fin 452, Attila part pour une grande tournée d'inspection et il dit aux Huns qu'à son retour, on l'attaquera cet empire d'Orient. Dans son inspection, en Germanie, et voilà qu'Attila tombe amoureux d'une jeune princesse qui s'appelle Idilco et il veut l'épouser. Printemps 453, l'expédition pour l'Orient est préparée, mais on construit en même temps une très belle demeure tout à fait somptueuse pour sa jeune épouse. Précisons qu'Attila a 60 ans et qu'elle en a 18. Il prépare son mariage, il envoie des chariots entiers pleins de cadeaux. Le mariage est célébré tout à fait somptueux. Le lendemain du mariage, au milieu de l'après-midi, on s'inquiète. Parce que si on n'a pas vu le roi le matin, on pense quand même que l'après-midi pourrait se montrer. Alors on va frapper à sa porte. Et Décone prend même l'initiative de l'ouvrir à coups de hache. Et que voit-il ? Prostré au milieu de la pièce, la reine semble complètement tétanisée. Sur le grand lit royal, le roi gît immobile. Il est mort. On ne trouve aucune trace de blessure ou d'empoisonnement. C'est une mort naturelle. La terrible nouvelle se propage du Danube au Rhin et de l'Oural à la Gaule. Alors, bien évidemment, à Ravenne et à Constantinople, on respire. On emporte la dépouille au centre de la plaine. Elle est exposée sous une tente de soie. Il y a des escadrons de Huns qui tournent autour du corps en hurlant des incantations. On creuse une vaste fosse dans laquelle on place le corps du roi et tous ses trésors. Puis au-dessus, on élève un grand tumulus. Et il y a des cavaliers Huns qui ont réclamé l'honneur de suivre le mort dans l'au-delà. On les égorge. D'autres récits prétendent que les Huns ont massacré par milliers les otages qu'ils retenaient et qu'ensuite, ils se sont livrés à tous les excès de la joie. Peut-être. Au revoir à tous.
Thank you.